Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier à Paris. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La mort de Simone Veil ce matin à son domicile parisien. Elle allait avoir 90 ans. Évocation dans un instant de Stéphane Robert. Réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes qui y trouveront le meilleur de la France. Et l'ancien président Hollande qui déclare qu'elle a incarné la dignité, le courage et la droiture. On entendra aussi la réaction de la sociologue Dominique Schnapper. Le reste de l'actualité en Allemagne. Le mariage homosexuel légalisé par un vote de la Chambre basse ce matin. Du Parlement, donc. Commentaire et compte-rendu de Cyril Sauvageau. En France, un séminaire gouvernemental de 24 heures va commencer ce soir à Nancy pour préparer les annonces de l'exécutif la semaine prochaine. Suivi de Thomas Séchier, on sera en ligne aussi avec l'ancien ministre socialiste Thierry Mandon. Simone Veil est donc morte ce matin à son domicile parisien. C'est son fils, Jean Veil, qui l'a annoncé en milieu de matinée. Elle allait avoir donc 90 ans le 13 juillet prochain. Ancienne ministre de la Santé, ancienne présidente du Parlement européen, Simone Veil était aussi une rescapée des camps de la mort. Elle avait été déportée à l'âge de 16 ans. Stéphane Robert, bonjour. De très nombreuses réactions ce matin. Emmanuel Macron écrit par exemple sur Twitter que son exemple doit inspirer nos compatriotes. François Hollande parle de sa dignité, de son courage, de sa droiture. Avant de vous entendre évoquer donc sa vie, l'écrivain Jean d'Ormesson avait lui résumé la dimension qu'avait prise Simone Veil dans la mémoire collective. C'était dans son discours de réception à l'Académie française le 18 mars 2010. On écoute Jean d'Ormesson.
De toutes les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer et à eux et à nous sont l'admiration et l'affection. Le temps pour vous passe à toute allure. Pour moi aussi, il faut aller vite. Après avoir été du côté de la liberté des hommes et de l'égalité des femmes, vous consacrez votre énergie, votre courage, votre volonté inébranlable à une cause nouvelle, la fraternité entre les peuples, y compris la réconciliation après l'horreur avec l'Allemagne d'hier et de demain, celle de Bach, de Kant, de Goethe, de Hölderlin, de Schumann, d'Henrien, de Husserl, de Thomas Mann et celle de l'Union européenne.
Voilà, Jean d'Ormesson qui recevait donc Simone Veil à l'Académie française il y a 7 ans maintenant. Stéphane Robert, on retrace avec vous maintenant les principales étapes et les nombreuses facettes de son existence.
Eh bien, déjà, Simone Veil, vous l'avez dit, c'était une rescapée de la Shoah, matricule 78-651 tatouée sur le bras au camp d'Auschwitz-Birkenau. Elle est arrêtée le 30 mars 1944 à Nice par deux SS à l'occasion d'un contrôle de routine dans la rue. Elle avait alors 16 ans, elle venait de passer son baccalauréat. Elle est emmenée à l'hôtel Excelsior, lieu local de regroupement des Juifs avant leur déportation. Puis elle transite par Drancy et ensuite Auschwitz, où elle arrive le 15 avril 1944. Un prisonnier lui conseille alors de déclarer qu'elle a plus de 18 ans pour éviter l'extermination. Deux mois plus tard, elle est transférée au camp de Bobrek, à 5 km de Birkenau. Puis peu de temps avant la libération d'Auschwitz, en janvier 1945, elle participe à la marche de la mort en direction du camp de Bergen-Belsen. Camp de Bergen-Belsen qui ne sera libéré que 3 mois plus tard, le 15 avril 1945. Sa mère est morte du typhus 1 mois plus tôt et sa sœur Madeleine, elle aussi atteinte du typhus, est sauvée in extremis.
Et voici ce que disait maintenant Simone Veil à propos de sa déportation.
Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. C'était un spectacle de Bruegel, tout à fait. Ou de Bosch, c'était ce qu'on a vu, d'image du Moyen-Âge ou de... Les cadavres au bord de la route, des formes se traînant pour essayer d'aller. Il y avait 4 mares dans le camp, enfin, il y en avait une qui était une mare ignoble. Et les déportés qui étaient entourés de barbelés, parce que c'était la seule réserve d'eau. Et les déportés passaient sous les barbelés, c'était gardé par SS. Les déportés essayaient tout de même de passer pour essayer de prendre l'eau dans cette mare. Et naturellement, comme il y avait des SS qui le gardaient, ils se faisaient chaque fois tuer. Mais. On ne tenait plus à la vie, on avait de toute façon plus du tout envie de vivre. Et la libération est arrivée. Je crois le 15, le 17 avril, dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzen après la libération. Beaucoup.
Stéphane Robert, Simone Veil fut aussi, peut-être avant tout, évidemment, une femme politique qui a compté, en particulier avec ce vote en 1974 de la loi autorisant l'avortement.
Oui, n'oublions pas quand même qu'elle était, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, ministre d'État et ministre de la Santé du gouvernement Balladur en 1993, membre du Conseil constitutionnel, élu à l'Académie française en 2008. Mais effectivement, son fait d'armes politiques, et ce qui reste dans la mémoire collective du peuple français, c'est la loi sur l'avortement, élaborée et votée alors qu'elle est la ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. À l'époque, ce n'est pas une loi socialement très libérale puisqu'elle n'autorise pas l'avortement, mais le dépénalise seulement. D'ailleurs, au moment de défendre sa loi devant les députés, Simone Veil soutient que l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours, je cite, pour les situations sans issue. Bien évidemment, cette loi initie une avancée sociétale majeure et s'inscrit pleinement dans le mouvement d'émancipation des femmes dans une société qui reste alors très patriarcale. Et elle fait de Simone Veil l'une des figures de proue de ce combat. C'est cette trace-là qu'elle laisse dans l'imaginaire collectif, celle d'une combattante du féminisme qui contrastait d'ailleurs avec sa grande pudeur. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait présenté Jean d'Ormesson lors du discours qu'il avait prononcé pour l'accueil de Simone Veil à l'Académie française en 2010 et dont nous avons entendu un extrait il y a quelques minutes. « Avec une rigueur à toute épreuve, avait-il déclaré, vous êtes en vérité une éternelle rebelle. »
Merci Stéphane Robert. Valéry Giscard d'Estaing, ce clair bouleversé, souhaite que sa vie exemplaire reste une référence pour les jeunes. Et à propos donc de cette loi autorisant ou légalisant l'avortement, voici un extrait de ce fameux discours de la ministre qui défendait son texte. Nous sommes le 26 novembre 1974 à la tribune de l'Assemblée. Donc.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. L'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Voilà, Simone Veil, c'était donc en 74 à l'Assemblée nationale. Hommage de droite comme de gauche très très nombreux depuis ce matin, notamment des féministes qui ont bataillé avec l'ancienne ministre dans sa lutte pour le droit à l'avortement, mais aussi pour une plus grande égalité homme-femme. Exemple, Yvette Roudy, ancienne ministre du droit des femmes sous François Mitterrand, qui déclare perdre une amie. On l'écoute.
Je l'avais rencontrée au Parlement européen. Nous avions ensemble fait un certain nombre de choses. Elle m'avait aidé à créer la Commission des droits des femmes. J'étais engagé dans le Parti socialiste, moi, à ce moment-là. Donc, nous n'étions pas du même bord. Mais en dépit du fait que nous n'étions pas du même bord, j'ai compris au moment en la rencontrant, j'ai compris qu'on pouvait avoir des amis qui ne pensaient pas à la politique de la même façon. Nous avions fait ensemble aussi, on avait pris une initiative, on avait lancé le manifeste pour la parité, 10 femmes politiques de droite et de gauche. Et on avait un peu préfiguré ce qu'a fait Macron. On avait fait ça avec 10 femmes de droite et de gauche, ministres, anciennes ministres. Il y avait Edith Cresson, il y avait Monique Pelletier. C'était une femme de caractère, elle était solide comme un roc. Cette impression que j'avais quand je la regardais présider, elle avait une solidité de roc, absolument.
Solide comme un roc. Yvette Roudy avec Nathanaël Charbonnier. On est en ligne maintenant avec Dominique Schnapper. Bonjour.
Bonjour Antoine.
L'ancien Premier ministre Manuel Valls écrit par exemple que Simone Veil, c'est une belle et grande Française qui vient de partir, mais c'est aussi donc la mémoire de la Shoah, la liberté des femmes, on vient d'en parler, l'engagement européen, et il ajoute, c'est une vie unique. Est-ce que vous, vous diriez, Dominique Schnapper, que vous concevez l'unité de ce personnage? Était-ce sa personnalité qui créait précisément l'unité de sa personne?
Oui, je crois que c'est une bonne réflexion. C'était une femme d'une force physique et morale exceptionnelle. Et donc, elle avait une force de conviction. Et je voudrais, à mon tour, insister sur le fait que cette femme déportée à 16 ans a eu comme un des vecteurs de sa vie politique et de sa vie tout court ensuite, la réconciliation avec l'Allemagne et la construction européenne. Et c'était une de ses grandes convictions avec la défense des femmes. Et elle a joué pour la défense des femmes un rôle exceptionnel et symbolique. Mais je trouve que son projet de réconciliation européenne est encore plus admirable, parce que ça n'a pas été la réaction de beaucoup de ces gens qui avaient souffert ces conditions abominables et qu'on ne peut pas critiquer, mais on peut admirer la réaction, elle, de Simone Veil, qui reposait sur ce goût profond de la vie qu'elle avait, sur cette force physique et morale exceptionnelle.
La vie qui, en fonction des circonstances, fait toujours réagir finalement vitalement, ce qui peut permettre de comprendre pourquoi, à un moment donné, on doit combattre pour survivre dans des conditions effroyables dans les camps, et puis qu'après, l'urgence, la vie elle-même appelle à cette réconciliation franco-allemande.
Oui, c'est cette force de vie qui l'a conduite à la fois, enfin, à ces deux grands engagements, celui de la défense des femmes et celui de la construction européenne.
Est-ce que vous diriez que c'était une femme politique ?
C'était plus une femme de conviction qu'une femme politique, je dirais. Ses convictions débouchaient sur des engagements politiques, mais la politique n'était pas vraiment au centre de sa personnalité.
Et est-ce que vous diriez, vous qui l'avez connue, qu'elle avait dans ce tempérament aussi, dit-on parfois, une exigence, une rigueur, peut-être même parfois une dureté dans le travail, dans l'activité ?
Elle avait une grande générosité, une loyauté parfaite envers ses amis, mais elle avait aussi des convictions fortes contre ceux qu'elle ne jugeait pas dignes de son amitié. Et ses convictions s'exprimaient avec la même force. Ouais.
On peut parler d'une certaine exigence, finalement. Qu'est-ce qu'elle ne supportait pas, surtout ?
Elle ne supportait pas l'ambition pour l'ambition. C'est dans ce sens-là que la politique était plutôt une conséquence de ses convictions que son tempérament en profond. Elle ne supportait pas la déloyauté et donc elle avait des jugements qui pouvaient être sévères. Mais quand on avait la chance d'être son amie, on pouvait tout à fait compter sur elle en toutes circonstances et avec une grande délicatesse.
Alors bon, question traditionnelle pour vous, qu'est-ce que vous conservez d'abord comme souvenir de Simone Veil ?
Ben, l'amitié que nous avons eue, nous avons été au Conseil constitutionnel ensemble, et je ne veux pas oublier aujourd'hui que je lui dois ma nomination au Conseil constitutionnel, et nous avions un accord profond dans notre relation à la vie. Et j'avais vraiment pour elle de l'admiration pour sa personnalité.
Merci beaucoup, Dominique Schnapper, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous, évoquer ainsi la mémoire de Simone Veil, qui est donc morte ce matin à Paris à l'âge de 90 ans. 12h44, le reste de l'actualité aujourd'hui, avec d'abord l'Allemagne et le mariage homosexuel qui a été légalisé ce matin par un vote de la Chambre basse du Parlement, un texte approuvé par les députés des trois partis de gauche, les sociodémocrates, les écologistes et la gauche radicale, mais qui ont été rejoints, Cyril Sauvageau, par une partie des députés de la famille conservatrice d'Angela Merkel.
Et oui, il y a eu à peine trois quarts d'heure de débat ce matin, un vote au pas de charge et au bout du compte une très large majorité de oui, 393 voix contre 226. Tout ça paraît très simple quand on se souvient de la violence du débat en France autour du mariage pour tous. Pourtant, l'Allemagne a mis très longtemps à en arriver là. La situation était bloquée depuis des années au Parlement. Les conservateurs ne voulaient pas d'une loi ouvrant le mariage aux homosexuels. Et puis en l'espace de quelques jours, tout s'est accéléré dès lors qu'Angela Merkel a levé son opposition de principe, les sociodémocrates et les écologistes ont sauté sur l'occasion pour obtenir un vote in extremis avant la fin de la session parlementaire. La chancelière elle-même a pourtant préféré voter non, officiellement par respect pour la Constitution qui définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. L'explication est un peu plus politique. C'est une façon pour Angela Merkel de ne pas froisser sa base la plus conservatrice. Les chrétiens démocrates demeurent très divisés sur ce sujet. Ce matin, un quart des députés de la CDU, 70 sur 300, ont choisi de voter oui. Les opposants au mariage pour tous, pris de vitesse par ce vote express, ne s'avouent pas vaincus. Ils envisagent un dernier recours devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la plus haute juridiction du pays.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup, en direct de Berlin. En France, l'actualité, c'est ce séminaire gouvernemental de 24 heures qui va s'ouvrir ce soir à Nancy. Il y aura les 19 ministres, les 10 secrétaires d'État qui vont se retrouver à partir de 19 heures, donc pour un dîner de travail autour du Premier ministre Édouard Philippe. Nous sommes à 3 jours du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès qui va se dérouler, on le sait, à la veille de la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'agit donc de préparer les annonces de l'exécutif la semaine prochaine, mais il faut bien dire, Thomas Séchier, que les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement se sont singulièrement rétrécies depuis notamment l'audit de la Cour des comptes qui a rendu son avis.
Oui, le gouvernement est en face d'une équation quasi impossible en l'état. Le Premier ministre Édouard Philippe a promis hier que malgré le dérapage des comptes publics constatés donc par la Cour des comptes, le déficit de la France serait de retour, quoi qu'il arrive, à 3% du PIB d'ici la fin de l'année, contre 3,2% au 1er janvier dernier. Cela signifie économiser 4 à 5 milliards d'euros supplémentaires. Problème, comment trouver cet argent en 6 mois sans augmenter les impôts, puisque c'est aussi la promesse du gouvernement. Toutes les promesses seront respectées, promet Matignon, mais il faut les inscrire dans un calendrier. Traduction, nous serons peut-être obligés de reporter certains engagements, comme la baisse de la fiscalité promise par le candidat Macron. On sait que pour le président de la République, la priorité des priorités est de refaire de la France un bon élève aux yeux de Bruxelles, c'est-à-dire de repasser sous cette sacro-sainte barre des 3% de déficit. D'autant que c'est la dernière année accordée par l'Union européenne pour le faire. Alors, première annonce hier, le gel du point d'indice des fonctionnaires pour 2018, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Autre piste fortement suggérée par la Cour des comptes au sujet des fonctionnaires, ne remplacer qu'un départ sur 2 dans les ministères, et surtout un départ sur 3 dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. Cela irait plus loin que la suppression de 160 000 postes qui figuraient dans le programme d'Emmanuel Macron, mais cela mettrait à coup sûr le feu aux poudres avec les syndicats dont le gouvernement a besoin dans le dossier loi travail pour s'éviter une fronde sociale. Bref, l'exécutif est confronté plutôt que prévu au principe de réalité. L'heure est arrivée de faire ses premiers choix.
Thomas Séchier, merci beaucoup. J'ajoute que l'équipementier en difficulté GM&S Industrie a été placé ce matin par le tribunal de commerce de Poitiers en liquidation judiciaire avec prolongation de l'activité jusqu'au 21 juillet, annonce des syndicats à l'usine de la Souterraine dans la Creuse. On revient maintenant sur, enfin retour sur image avec cette photo officielle du président de la République rendue publique hier. Le président qui pose debout, le regard rivé sur l'objectif, costume sombre, cravate bleue, un fin sourire sur les lèvres. Il est adossé au bureau qui fut celui de Charles de Gaulle. Seule touche de modernité, peut-être, ces deux téléphones portables du président, dans lesquels se reflète d'ailleurs le coq de l'encrier du bureau présidentiel. Monsieur Macron, qui se décrit volontiers en maître des horloges politiques, a aussi fait figurer la pendule des conseils des ministres, qui affiche d'ailleurs 20h20, c'est l'heure à laquelle le cliché a été pris. Et pour parler de cette photo, on est en ligne avec Thierry Mandon. Bonjour.
Bonjour.
Ancien ministre et futur directeur de publication. Vous êtes aussi, vous en direz peut-être un mot tout à l'heure, vous êtes aussi donc un beau connaisseur de l'art de ces photos officielles. Est-ce qu'une photo a jamais été, selon vous, aussi calculée, travaillée que celle-ci ?
Toutes le sont. C'est un des actes symboliques les plus importants des nouveaux présidents de la République que de réfléchir à la façon dont finalement ils se mettent en scène et ils mettent en scène leur rapport et leur conception du pouvoir. Et donc celle-ci l'est particulièrement car il y a un soin très minutieux à des détails, à des objets, mais toutes sont très travaillées.
Alors donnez-nous peut-être un exemple de l'analyse d'image que vous pouvez faire, vous, ce que vous avez repéré surtout dans la signification de cette image.
Moi, ce qui me frappe dans cette image beaucoup plus que les détails qui ont leur sens, mais c'est l'impression générale de présence physique affirmée, voire très affirmée, que veut donner Emmanuel Macron, un peu comme accroché à son bureau, appuyé sur lequel il est appuyé, de face sur pratiquement l'ensemble du champ de la photographie. Il disait, ben voilà, je suis là.
Et sa présence occupe tout l'espace, finalement,
oui,
de la photo.
Oui, il y a une forme à la fois d'affirmation, beaucoup plus si on la compare avec celle de François Hollande en 2012, où au contraire, il y avait l'affirmation inverse, mais aussi presque de défi. Voilà, vous pourrez en gros me faire ce que vous voudrez. Moi, je suis là, je prends tout l'espace, je suis accroché à mon bureau et rien ne m'arrivera. Donc, il y a une sorte d'affirmation de, entre guillemets, propriétaire des lieux Élysée qui traduit cette photo.
Sur les réseaux circulent depuis hier des images du président de la série à la Maison Blanche ou encore celui de la série House of Cards. Évidemment, mise en scène assez ressemblante hein, dans le bureau ovale. Est-ce que vous parleriez d'américanisation aussi ?
Oui, parce que si ça n'était que cet élément-là, finalement, on pourrait considérer qu'il il a trouvé la photo d'Obama remarquable et qu'il s'en inspire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la journée américaine, ce début de quinquennat, le discours... À la nation qui est un petit peu le discours de l'État de l'Union que font tous les présidents des États-Unis chaque année, ça c'est lundi prochain, l'invitation de Donald Trump dans le 14 juillet, cette photo hier soir à l'inauguration d'un lieu de création de start-up et de pépinière, le message type Silicon Valley qu'il a donné à 200 ou 300 chefs d'entreprise sur le thème « Vous êtes la nouvelle frontière et c'est vous qui réglerez les problèmes de la planète, vous les investisseurs du numérique ». Il y a vraiment une affirmation à l'américaine.
Alors qu'est-ce que vous en dites, vous, Thierry Mandon,
de tout ça ? Je vous en dis après tout, pourquoi pas, chacun a le droit de prendre ses sources là où il veut. D'ailleurs, ça c'est cohérent avec son positionnement idéologique qui ressemble fort au Parti démocrate à l'américaine, mais il y a une différence et elle est de taille. C'est que le système américain repose sur ce qu'on appelle les check and balance, c'est-à-dire l'idée que l'autorité présidentielle, qui est revendiquée et nécessaire aux Américains, est contrebalancée par des pouvoirs qui sont le Congrès, les États fédérés, la presse, bref, par toute une architecture démocratique qui fait le pendant de cette autorité. Or, en France, dans la Ve République, cinquième qui déséquilibre dès son origine le lieu du pouvoir dans l'exécutif, une telle suraffirmation de sa présence et de sa puissance, non contrebalancée par des pouvoirs donnés au Parlement par exemple, ça peut être assez inquiétant. Le pays n'est pas fait pour être gouverné par un homme seul.
Convoquer le Congrès, donc, reléguer un peu son Premier ministre au second plan, encadrer aussi ses ministres, et puis le parti qui étend son pouvoir à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron concentre à l'Élysée, on l'a dit, tous les pouvoirs. Est-ce que, selon vous, c'est ça le macronisme et est-ce que c'est viable ?
Sur le long terme. C'est l'alliage de la Ve République de ses origines, avec l'affirmation gaullienne du pouvoir, et d'une sorte de saint-simonisme, c'est-à-dire de croyance dans quelques élites qui, avec le monarque républicain, peuvent transformer le pays. Saint-Simon pensait que l'alliance des entrepreneurs et des scientifiques apporterait le bonheur sur Terre, en tout cas dans le pays. Emmanuel Macron ne doit pas être loin de penser ça. Lui-même plus quelques élites nouvelles, pas les élites classiques, mais ça suffit à transformer le pays. Je crains que la société, tôt ou tard, ne se rappelle à son souvenir.
Alors, vous allez être là, peut-être, pour participer à ce rappel, Thierry Mandon, puisque vous lancez prochainement un journal, je crois, qui sera publié tous les 15 jours. Où est-ce que vous en êtes ?
Non, c'est un hebdomadaire.
C'est un hebdomadaire, pardon, excusez-moi.
Oui, donc toutes les semaines, ce qui est logique pour un hebdomadaire.
Oui.
on est à la préparation des équipes, au positionnement exact du journal, à sa construction, et on veut surtout un journal qui soit très proche de ses lecteurs, avec un rapport très participatif avec ceux et celles qui s'y abonneront.
Voilà. Et donc, c'est en version numérique uniquement ?
C'est une acte de foi dans le papier. Il y aura une version numérique, mais c'est d'abord un journal papier.
Ah, c'est d'abord un journal papier.
Ramener des couches, des générations au papier, quitte à inventer une forme d'écriture très variée, qui ne soit pas seulement des textes, mais du photojournalisme, de la bande dessinée, etc.
Voilà. Bon, on vous réinvitera donc, évidemment, pour en parler le jour de la sortie. Merci encore, Thierry Mandon, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous dans cette édition. Pour la météo, peu de changements par rapport à hier. Un temps encore nuageux, parfois pluvieux. Seul, en fait, le sud-est va profiter encore d'un temps sec et lumineux. Température 17 à 27 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. N'oubliez pas, 17h, le magazine de la rédaction Alerte aux écrans Nounou. C'est un reportage d'Aurélie Kiffer réalisé par Annie Brault présenté par Tara Schlegel. Et puis à 18h, le journal vous sera présenté par Adrien Toffolet.